Visite sur les traces des anciennes mines à Saint-Félix-de-Palière.
Bonjour.
Désolé, j'ai fait au plus vite.
Ah ben bravo, bienvenue.
Printemps 2025, nous sommes un petit groupe à avoir rendez-vous avec André Charrière et Hélène Legaric à la sortie du village de Saint-Félix-de-Palière, sur la route, au-dessus du ruisseau de Palérolles.
Je viens jamais dans ce coin. Vraiment jamais.
Pourquoi vous habitez par ici?
Oui.
Toi, André, t'habites où?
Moi, à la fois Anduze et à la fois j'ai intérêt à un contrebas.
Ah oui, d'accord.
André est géologue, membre de l'ADAMVM, Association pour la dépollution des mines de la vieille montagne. Hélène en est la présidente. L'ADAMVM a été fondée en 2014, continuant l'action de l'Association des riverains des mines de la Croix de Palière, créée en 2012. Son but est de lutter contre toute forme de pollution due à l'exploitation des anciennes mines métallifères et de défendre les intérêts des habitants touchés directement ou indirectement par cette pollution. Les sites miniers sont situés sur les communes de Toiras, Anduze, Saint-Félix-de-Palière, Tornac, Durfort et Fressac. Les dernières exploitations ont fermé en 1971. Il en a été extrait, entre autres, plusieurs milliers de tonnes de zinc, de plomb, d'arsenic. André nous guide pour constater les effets de l'après-mine sur l'environnement.
J'ai appelé promenade autour du ruisseau de Palérolles, entre les mines Curnier et les mines Joseph. Dans le coin, il y a un granit, on s'en moque. Et puis là, vous avez des grès massifs. Et donc, vous voyez leur inclinaison, et ces grès, on va les suivre dans le paysage. Hein. Et on va faire le tour, en fait. On va partir d'un côté, et on va remonter de l'autre côté. Voilà, alors on démarre sur de la géologie pure et dure. Enfin, à savoir que où on a quitté nos voitures et jusque là-dessous, dans lequel coule une magnifique rivière orange, on est sur des couches de grès qui plongent comme ça, en gros vers la Méditerranée. Et les dernières couches de grès les plus hautes sont derrière le pont. Et au-dessus, on a donc plusieurs dizaines de mètres d'argile noire qui va être imperméable. Donc c'est le deuxième type de couche, mais dans tout ça, on n'a pas encore des minéralisations. Donc un petit poil au début, mais ça ne compte pas, ça n'a pas donné. Par contre, on va trouver la minéralisation à la base de la troisième couche, donc dans laquelle on va aller.
Du coup, il y avait une question de ouais. Numa sur un peu la richesse des couches justement en minerais là du coin.
Oui.
Voilà, c'est un peu une, ouais.
En gros, la zone d'exploitation, même historique, elle s'étendait de où à où et pourquoi géologiquement il y a cette zone d'exploitation.
Bon, il faut savoir qu'une minéralisation c'est une anomalie quelque part par rapport à une moyenne. Bon, et cette anomalie. Elle peut se produire sous des quantités de facteurs possibles. Ça peut être des remontées de liquide à partir de jus de magma profond. Ça peut être des dépôts, des anomalies de surface, parce qu'on est dans un site qui, à un moment, a connu une histoire différente d'un site banal. Alors, pour préciser un peu plus les choses, ces grès, ce sont des terrains continentaux, hein, ce sont des dépôts fluviatiles. Bon, ça, ces couches noires, grises noires, ce sont des dépôts marécageux, faire simple. Bon, et la troisième couche qu'on va trouver, c'est une couche de dolomies. Alors, les dolomies, ça se forme dans un contexte tout à fait précis, tout à fait particulier, uniquement sur la zone désertique, dans la nature actuelle. Et très précisément à l'endroit où les eaux marines rentrent en contact avec les eaux douces. Donc les dolomies se forment actuellement dans les lagunes d'Abu Dhabi, aux Bahamas. Bon, Alors maintenant, c'est dans ce contexte-là, ici, qu'ont eu lieu ces minéralisations, dans des environnements désertiques, anciens, et sur des zones précises qui étaient en relief. C'est-à-dire que si je représente la Méditerranée et le Massif central, eh bien ici, sur Saint-Félix-de-Palières, on avait une mer au nord, côté Massif central, une mer encore plus profonde, mais très peu profonde à ces époques-là, côté Méditerranée. Et sur Saint-Félix-Carnoulès, il y avait un gros dos où on avait une tranche de dépôt encore plus fin, et où les lagunes devaient être stagnantes et tous les produits des lessivages des terrains se sont concentrés sur cette zone haute. Donc c'est une zone qui en gros fait entre 1 et 3 km de large et qui s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur. Et ceci, ça se passe il y a 200 millions d'années, au début du Jurassique, pour tout savoir. Donc là, ici, ça c'est bien maîtrisé. Ça s'appelle la bordure sous-saisonnole. Donc en gros, ça démarre à Salsine et ça monte jusque vers l'Ardèche. À une bande étroite. Bon, on va aux minéralisations. Donc, vous intégrez qu'on rentre dans la troisième couche des dolomites.
Nous empruntons un sentier en contrebas de la route qui descend vers le ruisseau.
Sur le chemin, mais ça n'a pas l'air de...
Voilà. Alors ça, c'est pas de la dolomie, ça c'est du minerai. C'est du minerai métallique, surtout du minerai de fer altéré. Mais alors c'est ça. Mais c'est ça. Ouais. C'est tout ce qui se décline entre le rouge, le jaune, l'orangé, le marron foncé, le violacé. Ce qui fait que là, on s'est dit, bon, c'est un tas de pierres, hein. pas du tout. C'est pas un tas de pierres banales. Vous avez à la fois des dolomies en bloc, voilà, l'aspect de dolomie. Vous avez un mélange de rejets miniers.
Donc ce sont des déchets.
D'exploitation. Et on va le voir, qui ont été rejetés directement en contrebas des galeries de mines qui ont été creusées. Voilà, alors si vous voulez un nom savant, ça s'appelle des haldes, H-A-N-L-D-E. Pour les charbons, on dit des terrils. Pour les mines métalliques, on parle de haldes, mais c'est la même chose. Et donc, ce sont des haldes résultant de l'extraction directe.
Mais là, il y a juste une partie qui est sans végétation, là, qui est dénudée. Mais du coup, j'imagine que...
Ah ben oui, alors vous allez voir, donc on va continuer. Ce qui se porte très bien, c'est le thé. Hein, à consommer avec modération.
Bon. Les haldes, c'est les seuls déchets miniers qui existent?
C'est le nom de tous les déchets miniers métalliques à partir d'extraction de métaux.
Hein. Et est-ce que tu appelles les fines?
Alors les fines, c'est après le traitement minier, après être passé avec du tamisage, des eaux, traitement, rajout de produits pour séparer les fractions les plus riches des fractions les moins riches.
Ah oui,
là, c'est juste des résidus extraits mais pas traités.
Voilà. Mais d'ailleurs, avec un peu d'habitude, vous allez voir les paysages. Alors, corrélativement, un sol orangé. Hein. on a la bonne lumière là. Donc vous voyez ces paysages de bombardement, des bosses artificielles d'origine anthropique, des trous et des fronts. On va s'en approcher d'un sur le côté. Donc des fronts, c'est à partir de ces fronts que les gens ont commencé à avoir les concentrations minérales et puis ont creusé des galeries.
La plantation date de quand ici ?
Alors, il y a un document de 1759, je ne sais pas quoi, à une année près, qui appelle ça mine Curnier, qui appelle de l'autre côté mine Joseph. Bon, mais elle est orpheline, on ne sait pas à qui elle était, mais bon.
Mais on ne connaît pas la période d'activité.
Non. Mais bon, mais c'est parce que c'est une mine artisanale. Ouais. Il n'y a que ça comme débris, alors que ça, entre parenthèses, ça descend quand même jusqu'au ruisseau. Et il n'y a pas de chiffres, il n'y a rien. Hein.
Okay.
On a des chiffres que sur les exploitations industrielles. Alors peut-être qu'il y a des archives quelque part, des historiens pourraient s'exciter. Je ne sais pas dans quel service des mines on peut trouver ça. Voilà, une énigme historique.
Et je ne sais pas si tu l'as déjà dit, j'ai peut-être oublié, mais c'est toi qui l'avais retrouvé ou
C'est moi avec un gars du coin qui connaissait. Bon, j'ai crapahuté au début avec lui. Parce que moi, je me suis mis sur ces dossiers que vers 2012, il y a une douzaine d'années. Alors ça s'appelait les gens de la région, on entendait parler Curnier ou Cournier. Bon, et puis, plus personne n'en a entendu parler. Quand il y a eu une reprise d'études, il y a eu une étude environnementale, IEM-ICF, 2012-2015. Les gens qui sont venus ici, ils ont fait des prélèvements, ils ont trouvé beaucoup de métaux, mais ils n'ont jamais dit que c'était une mine. Voilà. J'avais fait un premier article à Causses-Cévennes en 2015, je crois, quelque chose comme ça, ou 2016. Bon, et puis Géodéris est revenu faire des études. Et depuis 2019, Géodéris a redécouvert la mine Curnier qui est ici, une ancienne mine artisanale.
Il reste des galeries encore
Eh bien oui, ben, on va voir. Alors, il y en a même certaines qui ne sont pas fermées en bas.
Ah, ben voilà, super.
Ben oui. Ah, ben, on trouve tout.
La pêche, c'est du week-end.
Tu n'as pas ton téléphone, mais j'ai le mien. Oh, ben tu fais la photo parce que je trouve qu'il y a une bonne lumière là pour montrer le contraste entre les dolomies grises. Et puis le filon jaune. Merci.
Je croyais qu'on allait rentrer dans la grotte. Mais...
Et ça, c'est des grottes qui sont. Enfin, des grottes, du coup, des mines qui sont répertoriées sur les cartes.
Pas du tout. Pas du tout. Personne ne connaissait.
Même sur Géoris, etc., machin, c'est des cavités qui ne sont pas répertoriées.
Non. C'était pas une mine répertoriée. Voilà. Et la législation française implique de fermer tout accès à des cavités de grotte.
On est sur Tornac là ?
Oui, on est sur Tornac.
C'est fermé en fait.
De ce côté, oui.
Tu sais si c'est la législation française, elle dit quoi ?
Mais qu'on ne doit pas laisser de cavités ouvertes des grottes. Quand l'exploitant minier part, on lui demande de démolir tous ses bâtis. Et on lui demande d'obturer toutes les cavités minières.
Et ce trou-là, par exemple, on pense que c'était une mine d'exploitation, je veux dire à quelle échelle je ne sais pas, plusieurs familles artisanales, on va dire.
Oui, artisanales. Okay. Oui, oui.
Donc, ils repéraient les endroits un petit peu riches en minéraux dans le coin. Ils disaient, tiens,
ah,
on va...
ah, voilà, voilà.
Et
ouais.
Donc, ça donnait suffisamment pour que quelques familles puissent y trouver un intérêt économique.
Ah oui, oui. Parce qu'il y a eu, oui, ce qu'on ne sait pas en général, ou qu'on découvre, bon, moi aussi, je l'ai découvert en cherchant, en fouillant les dossiers, c'est qu'il y a eu une ruée vers le Zinc sous le Troisième Empire, avec Napoléon III, parce qu'auparavant, on ne connaissait pas du tout la métallurgie du zinc. Et donc, ça a été une révolution. À partir du moment où on a pu faire des plaques de zinc, eh bien, on a fait des toitures, on a fait des tuiles, on a fait des conduites d'eau, on a pu faire des baignoires et monter les immeubles, le type boulevard Haussmann. Les immeubles parisiens sont directement liés à ça. Ce qui fait que, corrélativement, bon, et les Cévennes ont fourni une grande partie du stock de zinc, quoi. Brutalement, dès qu'il y avait des trous, les gens, que ce soit des paysans qui, au moment où il n'y avait pas trop de boulot de récolte, s'y mettaient, ou que ce soit des notables locaux, eh bien, dans cette ruée vers le zinc, c'est en gros 1860, jusqu'avant la Première Guerre mondiale, quoi. Mm-hmm. La fin du 19e siècle. Okay. Et d'emblée, il y a eu à la fois des gros, des petits, et les petites mains et les grosses entreprises, ouais. Capitalistes qui se sont développées à partir de Napoléon III, quoi.
Et il n'y avait pas des signes d'extraction, d'exploitation de l'époque romaine dans le coin
Si. Il y a des galeries, mais les Romains, alors, ils cherchaient l'argent et le plomb. Parce qu'eux, ils faisaient des canalisations en plomb.
Ah, oui.
Résultat, saturnisme avancé. Mais le zinc, ça n'existait pas avant.
Ah, chaque période son...
Ouais. En tout cas, le grand intérêt, c'est de voir une mine à l'œil nu, ici. La mine Joseph, qui est de l'autre côté, c'est l'équivalent, sauf qu'elle est beaucoup plus grande et elle a fait l'objet d'une exploitation industrielle avec des dizaines de kilomètres de galeries et sur plusieurs niveaux.
C'est quoi comme type de minéraux, du coup, comme éléments qui sortent là ?
Ah ben là, ce qui reste... Ce sont surtout des oxydes, des hydroxydes de fer, bon, sans intérêt, mais c'est à l'intérieur de ce filon que localement, ils vont trouver donc, soit de la galène, du sulfure de plomb, soit de la blende, des sulfures de zinc. C'était majoritairement les deux métaux qui étaient recherchés.
Et du coup, associé mais pas recherché, du coup, il y avait de l'arsenic aussi dedans.
L'arsenic, en général, il est parallèle au plomb. Quand c'est chargé au plomb, c'est chargé en arsenic. Et avec le zinc, majoritairement, c'est le cadmium, on se rend compte.
Ah oui.
Quand c'est chargé en zinc, c'est chargé en cadmium, quoi. Il y a des affinités géochimiques entre les métaux, quoi.
Et la question là sur la pollution, est-ce que des mines comme ça, là, justement, est-ce que ça a une incidence? Est-ce que déjà c'est mesurable? Est-ce que tu penses que toi ça a une incidence en termes de pollution?
Ah ben vous allez vous faire une idée. On continue la visite. Mais je peux te dire déjà que personne se bouscule pour mesurer.
Là, il y a des belles couleurs là en bas. Là. On a un joli ocre. Ça sent bon l'arsenic, ça, non? Hop, voilà. Ça sent bon l'arsenic, ça, non?
Eh bien, voilà, vous avez déjà vu cette couleur. Hein. Voilà le résultat du drainage mini-acide. Alors, ça, c'est un ruisseau qui vient d'un lessivage de ce qu'on appelle des terres rouges qui sont à un endroit localisé. Alors, à cheval sur les communes Anduze, hein, Toiras, Tornac et puis Saint-Félix aussi. Bah, il se jette dans un premier ruisseau qui est sain, lui.
Ouais.
Bon, et puis ça va rejoindre le Gardon d'Anduze.
Ouais.
Voilà, alors en aval d'Anduze, mais au niveau de la zone de captage de Trois-Races et Alès Sud.
Ouais, ça donne envie, ouais.
Ben oui, c'est beau, hein.
J'ai déjà vu des photos, mais en vrai, c'est...
Ah, ben...
C'est encore mieux. Ouais.
Donc, comme à Saint-Sébastien d'Aigrefeuille, pH 2, ouais.
Oui, cette eau-là.
Hyperacide, oui. Oui. Les mesures, bon, ici, peut-être 2,5, hein. Mais en amont, c'est 2. au point. Donc, totalement, évidemment, impropre à la vie. Hein. Tout ce qu'on peut trouver quand ça stagne, bon, ce sont des voiles bactériennes en surface. Les éléments métalliques, donc plomb, zinc, arsenic, cobalt, nickel, cadmium, thallium, bon, y en a une quinzaine. Soit ils sont transportés à l'état dissous, en partie, soit ils sont transportés à l'état de macromolécules, regroupés entre elles. Et quand le courant tend à diminuer, ils se fixent dans la matière organique en décomposition et sur les particules fines argileuses. Ce qui fait que, bon, là, évidemment, c'est une eau hyper toxique. Bon. Mais dans une eau courante comme le Gardon, et à un moment, donc là, la teneur en métaux va varier d'un moment à l'autre en fonction du régime. Dès que vous avez une remise en circulation de l'eau, eh bien, tous les matériaux qui sont en fond, qui sont fixés, eh bien, ils sont remis en circulation, bon, et ils vont plus loin, quoi. Donc si vous barbotez dans une eau qui est noire parce qu'il y a de la matière organique et où on s'enfonce qui est argileuse, là tous les coups avec vos pieds vous remettez en circulation les métaux. Bon, inversement, si vous barbotez dans une eau avec un sable clair où il n'y a pas de boue, vous faites rien de plus. Donc, tout dépend de l'utilisation, du temps, bien sûr, de résidence, etc. Le docteur Bouchacourt, il dit qu'un gamin qui tombe là-dedans, il est brûlé au troisième degré.
Nous traversons le Palérol pour nous retrouver sous la mine Joseph, exploitée de 1858 à 1955.
Bon, et puis là, vous voyez, ce sont les derniers bancs de grès. Et à partir de là-bas, vous avez au moins 15 mètres de halde qui descendent directement dans le ruisseau. Hein.
Ah, tu veux dire, tout ce qu'on voit là, entre le ruisseau quasiment et l'arbre, voilà, et l'eau,
c'est 100% de halde.
Ah, ouais.
Et puis alors, ça s'érode complètement tout le temps.
Ça s'érode. Donc, il y a ce qu'ils appellent la sape hydraulique. C'est un grand mot pour dire que... La rivière, elle creuse en contrebas et donc elle fait tomber les haldes directement dedans. Donc tu as ce processus mécanique, bon, et tu as surtout ce processus chimique ininterrompu. Bon, et c'est pareil, parce que même les morceaux qui vont être emportés, ils sont en contact avec l'eau, ils roulent, c'est oxygéné, donc ils vont aussi produire du drainage mini-acide au fur et à mesure. Quoi.
Oui, donc finalement, après, c'est tout le lit du cours d'eau qui finit par être pollué lui-même.
Oui.
Et là, en général, il y a des... C'est pas en général, mais il y a des suivis souvent sur la bonne qualité écologique des cours d'eau, etc. Et est-ce que là, du coup, ils ont déjà fait des suivis un peu pour se rendre compte qu'il n'y avait rien
Non, il n'y a eu qu'au moment de la cession de la mine qu'il y a eu des chiffres. Puis quand une habitante à 2 km s'est affolée parce que l'eau était orange et a interpellé la préfecture, on lui a dit que c'était suivi et que en s'appuyant sur les mêmes chiffres qui avaient été faits 15 ans avant par les mineurs, et que l'affaire était contrôlée, et que même ce ruisseau, on pouvait dire qu'il était de classe 1A. Alors classe 1A, c'est le meilleur ruisseau. Ah oui. Voilà. Mais maintenant, il tient le plus ce discours, quand même. L'exploitant, il se rend compte que ça, c'est un gros bébé, quand même. La seule chose qu'ils nous ont proposé, c'est au niveau du chemin, faire un fossé en ciment pour que l'eau qui ruisselle du haut soit canalisée dans le fossé et aille un peu plus loin.
C'est ça. C'est pas du tout suffisant.
Donc,
c'est même absurde.
C'est absurde. Hein. Parce que
il faut rien faire, dans ce cas-là.
Ben, il faut à la fois de l'empierrement pour empêcher la poursuite des éboulements, et puis après, la grosse affaire, c'est le traitement chimique. La difficulté, c'est qu'ici, on est un système torrentiel, donc ça va surmettre un prétexte pour ne rien faire. Hein, en fait. L'histoire est à suivre. Donc ici, même chose, mais à grande échelle. Donc exploitation industrielle. Bon, et on monte tout le temps dans des haldes en contrebas des galeries.
Et ce bâtiment ?
Alors c'est le seul survivant. Il n'y a pas de traces de câbles qui part ni quoi que ce soit. Donc apparemment, il ne servait pas à la mine, mais par contre, vous avez beaucoup d'anneaux pour attacher les animaux, les chevaux en l'occurrence. Et donc, je pense que c'était le départ des charrettes pour aller faire retraiter, donc à 2 km en aval. Mais très vite, il y a eu des plaintes, dont toujours sous Napoléon III ou le début de la République qui a enchaîné. Et très vite, les femmes qui l'avaient se sont plaintes, les paysans qui faisaient boire leurs animaux se sont plaints, etc. Et assez peu de temps après, peut-être, je ne sais pas, 2-3 ans, quelque chose comme ça, ils ont arrêté ce système-là et ils ont créé des systèmes de poulies pour monter les matériaux et les renvoyer sur le haut, donc sur le deuxième site, enfin le troisième en fait, qui sera celui de la croix de Palière, où on ira en fin de journée, avant la nuit si possible. Et donc, il y a une laverie ancienne, qui est à 2,5 km d'ici. C'est le gars qui a été déménagé, le seul reconnu comme super pollué, parce qu'ils vivaient sur un site de laverie et avec des taux absolument phénoménaux, impropres à la vie, que ce soit animale, mais il y a vécu quand même 40-50 ans, un truc comme ça.
Ouais, il avait un gîte d'accueil, mais la raison officielle, c'était que,
voilà.
C'était que c'était inondable. Officiellement, on ne l'a pas exproprié pour la pollution, sinon ça crée un précédent.
Ben voilà.
Il a fait beaucoup de bruit, et la maire qui a fait pression sur la préfète, et ils ont trouvé cet argument. Donc officiellement, c'est pas à cause des déchets minés.
Ah, c'est fou.
Et là, ils sont toujours dans la négation.
Il y a une reconnaissance de la pollution. Alors que ça a été la négation.
Ils veulent pas indemniser.
Oui, créer un précédent d'expropriation pour raison de pollution minière.
Le monsieur qui habite au-dessus est allé en justice et il n'a jamais pu faire reconnaître la perte de valeur de sa maison et ses problèmes de santé. À lui, à ses animaux.
Ça mesure 1 hectare, globalement. Bon, et ça, c'est révélé pour la première fois en 2008. Vous voyez que c'est pas très loin. Hein. C'est le premier rapport de Géodéris 2008. Alors qu'ils ont fait des prélèvements en dessous, en particulier. Les premiers chiffres, ils ont mis déjà un an, je crois, de janvier à décembre pour sortir du bureau de la préfecture. Et puis ils ont été envoyés aux mairies comme ça, les maires ont dit qu'est-ce que c'est PPM, c'est le bon. Bon, et donc ça a été enfermé. Bon, ça n'a pas du tout, on n'a pas du tout impliqué la population, ni surtout pas donné d'alerte, ni quoi que ce soit. Alors en fait, je me suis fendu de cette coupe-là, dans cette position, pour comprendre ce qui se passait. À savoir qu'il y a les galeries minières encore au-dessus, là-haut. En fond de ruisseau, on va toucher les grès. Et entre les deux, au-dessous de nous, en fait, il y a des argiles imperméables. Et donc, vu que toutes les haldes ont été balancées, voilà, elles sont là. Alors, vous allez le voir, elles vont évidemment directement dans la rivière. Mais ce qui est plus subtil encore, c'est qu'il sort de l'eau rouge. Il y a des suintements d'eau rouge qui se produisent en permanence à la base. Alors d'où vient cette eau rouge? Eh bien, quand l'exploitant est parti, il a dit que d'un niveau, voilà, du niveau 6 des galeries, il sortait une rivière, il sortait un ruisseau, APH2, déjà acide, et que ils ont créé une tranchée en mettant du calcaire. Bon, ils ont fait un bricolage et évidemment ils sont allés analyser l'eau au moment où ils ont rendu la mine, et l'eau elle va très bien, elle allait très bien tout le temps. Donc ils avaient résolu le problème de l'eau acide qui déclarait ici. Bon, sauf que quand Géodéris est revenu en 2008, ils ont cherché la tranchée et ils n'ont pas trouvé. Bon, personne ne l'a retrouvée, c'est-à-dire qu'elle est quelque part sous les Haldes. Et puis, quand on a une carte, vous voyez cette zone toute claire. Les suintements, ils démarrent à un endroit, ils se poursuivent sur une cinquantaine de mètres. Et quand on regarde un plan, on voit que c'est juste en contrebas de l'endroit où il décrivait une sortie d'eau en provenance de la mine. C'est-à-dire qu'en fait, l'eau, elle continue à couler à travers les haldes, et donc elle déclenche, évidemment, le drainage mini-acide, tout autant ou davantage que les eaux de pluie qui peuvent tomber ici, et entraîner le drainage mini-acide qui est en contrebas. Et donc, ce qu'on voit, nous, avec nos yeux, c'est le fer qui est libéré, qui donne la couleur orange. Mais avec le fer, sont libérés tous les autres. Le plomb, l'arsenic, etc. Alors, des chiffres. Ah ben, voilà les chiffres de Géodéris, ici, à de mine Joseph. Donc, par exemple, voilà, je lis halde granulométrie grossière. Eh bien, plomb, c'est entre 57 fois et 350 fois le seuil d'alerte. Et pour le plomb, c'est 300 mg par kilo de matière sèche. Donc ici, c'est dans ces eaux-là. Alors, dans les rapports, c'est très subtil, parce que quand il y en a beaucoup, c'est en pourcentage. Quand il y en a moins, c'est en partie par million. Il faut toujours transformer ou en milligrammes par kilo de matière sèche ou en microgrammes par litre. L'arsenic, entre 16 fois et 32 le seuil. Un autre halde, 290 fois le taux de plomb, 60 fois le taux maxi d'arsenic. 22 fois ici, et plomb 185 fois le taux, ah oui. Arsenic 25 fois. Mais les normes, j'ai pas le papier, moi je me base sur les normes de l'expert judiciaire qui est venu de l'autre côté de Saint-Félix, bon, et qui sont les normes classiques. Pour le plomb, c'est entre 200 ou 300 selon les sources, par milligramme par kilo de matière sèche. Pour l'arsenic, c'est 60 mg par kilo de matière sèche. Mais si des enfants vivent dans le milieu, c'est la moitié, c'est 30. Pour le cadmium, c'est 1. Oui, alors le record quand même ici, c'est l'antimoine. J'ai noté, parce qu'on est à des valeurs de 900 fois, 1070 fois le seuil de toxicité de l'antimoine, hein, ici. Hein. Bon, et il y a des chiffres équivalents ailleurs sur les autres dépôts miniers.
Et quand ils disent qu'ils vont venir dépolluer,
ben, ici, ils sont obligés de le faire, mais comment? Ils n'ont pas trouvé la solution. Mmh. Et ça va être le dossier. Bon, à mon avis, ils vont faire traîner, on va voir au maximum. Parce que ce chemin, ça c'était l'ancien chemin d'accès, mais ils ont clairement dit qu'ils ne pouvaient pas faire passer le moindre camion dessus, parce que ce sont des haldes, parce que c'est des terrains pourris, quoi. Mmh. Ça se tasse, et les camions, ils valsent, de l'eau, des éboulements de terrain, sur le plan de sécurité, et donc il fallait chercher des voies d'accès de l'autre côté en terrain dur. Ça va être ça le big problème de la suite.
Ouais, déjà juste l'infrastructure qu'il faut pour accéder au site, déjà c'est
oui.
Énorme.
Ah, oui, oui. Quelle heure c'est?
18h45,
oui, ça avance.
Nous nous rendons maintenant sur le site de la mine de Croix de Palière. Début 2025, des travaux se sont achevés sur le site de l'ancienne laverie des Issards.
T'as vu? Même les pique-niques sont déconseillés, c'est flippant. Hein. Même s'arrêter. Même s'arrêter pour faire un pique-nique, ils disent faites pas ça.
Bon, alors là, on change complètement donc pour deux raisons. La première, c'est que le site ici est aménagé. Et la deuxième raison, c'est que ici, l'exploitation n'est pas du tout comme là-bas. Là-bas, c'était une exploitation en subsurface, donc avec les couches qui étaient comme ça. Et puis le long de la piste au-dessus, il passe une faille, ce qui fait que les couches minéralisées ici, elles sont sous nous et à 250-300 mètres de profondeur, ici, sur ce site-là, qui s'appelle la Croix de Palière. Donc il n'était pas question de faire des galeries plus ou moins profondes, etc. C'est une exploitation avec des puits. Et donc là, on a une plateforme là-dessus du puits numéro 1. Et donc, il y avait un petit derrick en haut, un système de pompage d'eau. En permanence, ils pompaient l'eau des galeries minières. Oui, les galeries minières étaient entre 250 mètres et 350 mètres de profondeur. Et donc, tous les matériaux étaient remontés par puits. Bon, et puis traité par ailleurs. Donc on a à la fois les résidus de ceux qui sortaient des puits. Bon, et là, ces résidus qu'il y a sur le côté, c'est ça, hein, c'est ces premières collines. Bon, et puis on a découvert qu'il y avait d'autres résidus gris, fins. Et alors au départ, l'alerte avait été mise sur une zone circulaire là-bas, donc qui est encadrée au milieu des arbres. Et sur cette zone circulaire là-bas, eh bien, on avait toute l'année des taches orangées, des sangliers qui venaient s'y rouler dedans. Et donc Géodéris, toujours pareil, 2008, quand ils ont fait les premiers chiffrages, et bien voilà, ben, par exemple, ce qu'ils ont trouvé, voilà le plomb, 136 000 avec une norme de 300. Vous voyez le seuil de toxicité, ah ben oui, c'est énorme.
C'est 500 fois, quoi.
Bon, le zinc beaucoup moins, de 22 000 pour 400. L'arsenic, 7 000 au lieu de 60. Ou, bon ou plus, 30 ouais. Pour enfants, voilà. Cadmium 160, maximum 1 ou 0,5 pour enfants. Antimoine, toujours pareil. La norme étant 1, on est à 1174.
Pas bon non plus.
Bon, et puis du mercure, mais le mercure, lui, il n'est pas naturel. Le mercure, lui, il est rajouté. Parce qu'en fait, c'était dans des particules grises très fines. Et dans des particules, pas des rejets miniers directs, des particules issues d'un traitement. Issues d'un lavage de minerai. Ouais. Parce que dans les lavages de minerai, on ajoute un certain nombre de substances, dont du mercure à l'occasion, mais des cyanures, il y a des thiosulfates, etc. Il y a tout un bataillon chimique qui est rajouté après pour séparer par flottation les métaux qu'on arrive à faire flotter, bien qu'ils soient le plus lourd, des derniers petits grains de dolomie, de sable qu'on peut trouver, et pour séparer les minerais les plus riches des fonds, mais dans lesquels il y a toujours quand même des résidus miniers, et c'est ces résidus miniers qui ont servi pour remplir cette galerie circulaire qui était là-bas. On avait alerté, et puis surtout sur le côté aussi, on avait trouvé qu'il y avait des alternances de matériaux grossiers, bon, et puis de ces matériaux gris, etc. Bon, bref, au final, Umicore, ils ont emporté ce qui était là-bas. Bon, et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont emporté tout ce qu'il y avait sur cette bande-là. Voilà. Et ils ont trouvé, alors là aussi, des taux. En fait, quand ils ont fait les mesures avant d'emporter, là-bas, ils avaient des taux avec de l'ordre de 10 000 fois les seuils, les teneurs en plomb, par exemple. Oui, c'est... en plomb, ils étaient dans les 10 000, 20 000 microgrammes là-bas. Et dans cette zone-là, ils avaient à la fois des chiffres équivalents, ils avaient des chiffres entre 5 000 et 600 000 microgrammes sur cette bande-là, en contrebas de la route. Ils ont même perforé la route pour sortir du matériel. Bon, ce qui fait qu'on se pose la question si ce qu'ils ont fait du matériel, est-ce que... alors, sachant que ce matériel... bon, Hélène le sait, 85% a traversé la France pour aller être traité à Laval. Est-ce que c'est qu'une zone de stockage? Est-ce que c'est une zone de récupération d'autres métaux associés et qui sont rentables? Ça aussi. Ouais.
Donc c'est 4500 tonnes de déchets qui ont été évacués là.
Ah ouais. Mais là, c'est toujours pollué quand même.
Alors, c'est ici, non? Ici précisément non, puisque enfin peut-être dessous, hein, mais ils ont mis 50 cm de terre par-dessus.
Ils ont essayé. Oui, alors ils ont mis d'abord une couche de cailloux, puis une couche de terre et de la végétation dessus.
Mais là, le problème aussi, c'est que toi, c'est des zones où les gens, ils ont l'habitude ici de venir faire du quad, du motocross. Ouais. Et moi, je me dis, à force, ça risque de raviner, ouais. Parce que 50 cm de terre avec les trucs qu'on a, ça peut vite partir.
En fait,
quoi.
C'est pas beaucoup.
C'est rien du tout.
Et là, c'est la préfecture qui dit à la mairie, parce que ça, c'est un terrain de la mairie, de clôturer. Et la mairie, déjà, elle n'a pas les moyens. Et ce qui se passe, c'est que dès qu'ils clôturent, les clôtures sont piquées. Voilà, donc c'est
Et là j'ai une question sur l'extraction. Quand ils extrayaient avec des produits chimiques du coup les métaux qui les intéressaient, du coup il n'y avait aucune retenue, il n'y avait pas de barrage, quoi que ce soit, c'était tout était fait à l'air libre et ils balançaient tout du coup dans le ravin, quoi.
Oui, et si possible ils mettaient les dépôts les plus fins à proximité des ruisseaux.
Les concessions, elles étaient...
Naturellement, c'était évacué.
Ils payaient une taxe, les concessions, ils payaient une taxe sur la quantité de déchets produite, non? Il n'y avait pas une histoire comme ça?
Oui, je pense.
Oui, ils avaient droit à...
ils avaient un quota de tant de zinc ou de plomb à sortir. Souvent, c'est comme ça, de façon... Mais pour le reste, après, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Personne ne s'offusquait qu'on balance les déchets. Bon, et encore ici, c'est à petite échelle. Bon, l'autre où on va finir, c'est... Ouais. Vous allez voir encore.
Tout en bas, là. C'est pas un bassin de compostage.
Ah oui, c'est quoi. Quel dommage.
Fin 2021, a été achevé le confinement de la digue des déchets de Toiras. Pendant 50 ans, ce qui semblait être une dune où les enfants avaient l'habitude de venir jouer était en fait un crassier à ciel ouvert, laissé à l'abandon, soumis au vent et aux pluies, empoisonnant les alentours et au-delà.
On a dans le talus, hein, Donc vous voyez que la pente est faible par rapport à la pente de ce côté. Donc ils ont travaillé la pente, il y a des enrochements en bas, puis un talus de terre. Et puis un plateau qui est le plus étendu. Bon, et globalement, ça fait quasiment un cercle de 3 hectares et demi, avec une partie en pente, en talus, et une grande partie en plateau.
Ils ont fait un système de canalisation.
Ouais, pour les eaux de ruissellement, pour les eaux courantes. Mais le principe, ça a été de tout imperméabiliser. Alors en théorie, je ne sais pas, ça, il devait y avoir 50 cm d'argile, une membrane étanche pour que l'eau ne traverse pas, plus de la terre végétale, de la corde pour la fixation de la végétation. Donc le principe, c'est de mettre sous cloche. Parce qu'il y a une épaisseur là de 35 mètres de dépôt, sur 3 hectares et demi. C'est plus mince sur le côté. Bon, et il y avait une nappe d'eau en permanence en dessous, dans les 8-10 derniers mètres. Bon, et l'eau s'est coulée, évidemment, en aval.
Après, ouais. C'est le Gardon de Saint-Jean, il y a la confluence juste un petit peu.
Ouais.
Et là, en fait, il démontrait que selon les épisodes de pluie ou pas, les résultats ne sont pas les mêmes sur les ruisseaux, et que c'est pas par rapport à tout l'investissement, c'est pas 100% satisfaisant, quoi.
Alors ils analysent à la fois l'eau en aval, et puis une source qui est à l'arrière, le Bijourné, qui va rejoindre un ruisseau qui finit dans la Salendrec. Et ce Bijourné, l'eau sort orange comme ça. C'est un peu moins chargé que ce qu'on a vu, mais c'est quand même chargé.
Donc ça
ne
marche pas.
La question, c'est de savoir est-ce que ça améliore ou non. Et alors tout ce qu'ils ont écrit sur le premier rapport, c'est que ça n'impacte pas négativement la qualité des eaux du Bijourné. C'est écrit texto dans le truc. Sachant que la qualité des eaux du Bijourné, c'est de l'eau pleine de plomb, d'arsenic, de cadmium, de tout. Donc on est content, ça n'altère pas la qualité de l'eau du Bijourné.
À l'été 2025, commenceront les travaux de dépollution de la Gravouillère, face à la digue, où les habitants subissent depuis des années la pollution au quotidien.
Voilà, alors le prochain projet, c'est là, puisque donc, vous voyez là, c'est traité. Avant, c'était comme ça, pire. Hein. Donc cet été, ils doivent à la fois construire un bâti de base, mais en haut, ils ne parlent pas d'imperméabiliser.
Et vous recouvrir.
Voilà,
ils veulent mettre sous cloche cette pente.
Mettre des blocs pour empêcher que ça glisse. Ouais. Déjà. Ah oui, alors sachant que c'est une surface d'exploitation, il y avait deux puits là-haut. Il y avait un puits numéro 3 et un puits numéro 3 bis. C'est-à-dire qu'en haut, il y a un plateau d'exploitation avec des cailloux grossiers, cimentés. Bon, qui protège un peu des infiltrations. Mais c'est le caillou, les cailloux, ils sont remontés du sol. Hein. Ce sont quand même des haldes. Disons, il y a des haldes grossières en haut d'exploitation qui chapeautent le système. Et donc, pour cette raison, apparemment, ils n'envisagent pas d'imperméabiliser vraiment le haut. Ils n'envisagent pas aussi d'imperméabiliser parce qu'il y a vraiment des haltes de fines un peu plus loin. D'après ce qu'ils me disaient, ils veulent s'arrêter juste en face de la digue. L'exploitant est condamné à aménager ce site. Oui,
tu vas
chauffer. Bon, écoute.
Merci.
Enfin, ce sera la mine Joseph. Mais la solution envisagée, la création d'un fossé de drainage des eaux de surface qui auront lessivé les haldes, ne fera que se déverser dans le ruisseau un peu plus en aval. Un vrai caillou dans la chaussure du mi-corps et un désastre continuel pour la population.